Donc ce qu'on va vous présenter sur ce dernier temps de la journée, c'est une enquête exploratoire qu'on a commencé à mener sur une circonscription. Donc le titre de cette présentation, c'est la pluralité linguistique des professionnels pour accueillir la diversité langagière à l'école. Et nous sommes réunis, on a travaillé tous ensemble sur ce travail, plus Enrique Villaboas du Centre Alain Savary aussi, qui n'a pas pu être présent mais qui était là sur les deux jours. À ma gauche, Jocelyne Maréchal, qui est conseillère pédagogique sur la circonscription de Saint-Fons, donc, qui a fait l'objet de ce petit travail qu'on vient de commencer. Diane-Alice Simon, de l'Université de Grenoble-Alpes, du laboratoire Lidilem. Donc Marie-Odile Mersandoz du Centre Alain Savary et de l'IFE, et Jean-Luc Vidalinc du pôle allophone du Rhône, qui travaillait aussi avec nous, et donc Enrique Villaboas et moi-même, donc du laboratoire ICAR et de l'ESPE de Lyon. Donc cette idée de petit travail de recherche, c'était quand même une idée originale de Marie-Odile Mersandoz, il faut quand même le dire au départ. Idée à laquelle on a tous immédiatement adhéré. Alors pourquoi on a collaboré ensemble? Déjà, ça depuis de longues dates, les universités de Grenoble et de Lyon, à travers les deux laboratoires, Lidilem et ICAR, travaillent ensemble avec l'INRP et puis avec l'IFE, que ce soit à travers des formations qui ont été organisées depuis plusieurs années, même une bonne dizaine d'années, hein, je dirais, même peut-être plus. Ouais, presque. Des collaborations avec la circonscription de Saint-Fons, où on est tous à peu près intervenus aussi en animation pédagogique, et des collaborations aussi dans le cadre du séminaire ELS et de l'école thématique ELS d'octobre 2014, et avec Jean-Luc également, qui est intervenu à plusieurs reprises dans ces cadres-là. Donc voilà, on a eu envie de mettre en commun nos forces et nos envies, donc pour aller plus loin sur la question du traitement de la diversité linguistique à l'école et de l'accueil des enfants allophones, en menant une enquête exploratoire au sein de cette circonscription, donc une recherche sur le terrain. Donc l'idée, c'était d'enquêter sur les biographies langagières des professionnels d'une circonscription, pour connaître, répertorier les ressources linguistiques potentielles et voir comment ces ressources sont éventuellement convoquées d'une façon ou d'une autre pour accueillir la diversité langagière sur le terrain de l'école. Alors cette enquête n'aurait pas été possible sans la participation et le soutien de l'IEN de la circonscription de Saint-Fons, donc Madame Dominique Pell, que nous remercions chaleureusement. Et enfin, c'est important de dire qu'on n'en est qu'à la première étape, hein, de dépouillement et d'analyse du questionnaire, puisqu'il a été soumis avant les vacances de Noël. Donc on a commencé vraiment à travailler dessus que très très récemment. Donc on a prévu plusieurs autres séances de travail, donc on va vous montrer une première étape de travail à partir de ce questionnaire. Donc on va tout d'abord vous présenter le contexte. Donc c'est Jocelyne Maréchal qui connaît bien ce terrain, qui va nous dire quelques mots sur ce contexte.
Donc Saint-Fons, c'est une commune située dans l'Est lyonnais, qui est une commune récente qui peut avoir une importance sur la façon dont elle a construit son identité culturelle. C'est une commune qui s'est construite quand les industries chimiques se sont installées sur le bord du Rhône, puisque la commune auquel elle était au départ un simple hameau n'a pas vraiment voulu la garder. Donc elle est devenue commune par entière. Quelques chiffres ici qui donnent une image de la situation socio-économique de cette commune. Je pense que c'est une commune dont toutes les écoles sont situées en éducation prioritaire, en REP+. C'est une commune dont quasiment tous les quartiers sont ce qu'on appelle QPV, c'est-à-dire les anciens QUX, quartiers politiques de la ville. Les quartiers qui ne le sont pas, c'est qu'ils ne sont pas habités, en fait. Un taux de chômage important, un taux de population immigrée élevé, une répartition aussi sur le territoire assez clivée, C'est-à-dire qu'on a un type d'immigration sur le haut de la commune, une population essentiellement turcophone et une population aussi, portugaise. Et de le bas de la commune, on a plutôt une population issue d'Afrique du Nord. Voilà. Et quelques données, voilà, pour vous donner un éventail de la diversité culturelle et linguistique de la commune, parce que ça a un impact sur le travail qui a été fait ensuite au sein des écoles. Les enseignants des écoles, donc il n'y a pas tellement de surprises. Ça, c'est un tableau qui est propre à la Circo. Une population très jeune, hein, puisque je ne sais pas si vous voyez, donc on a 148 enseignants qui sont administrativement rattachés sur la commune de Saint-Fons. Et on a presque une soixantaine d'enseignants qui ont moins de 30 ans et à peu près autant qui ont moins de 40 ans. Donc c'est une population jeune avec un turnover important. Puisque, suspense, voilà, ça c'est l'ancienneté sur le poste. On voit que sur cette année, hein, c'est une donnée de cette année, presque 60 enseignants sont sur le poste pour la première fois. Ils ont une année d'ancienneté dans le poste. Ce qui veut dire, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont nouveaux sur la commune parce qu'ils ont pu changer d'école, mais grossièrement, on a un turnover très très important sur la commune, étant donné que, bon, je ne vous apprends rien, hein, c'est ce genre de commune qu'on obtient dans ses premiers vœux parce que personne ne veut y aller. Donc quand on veut être titularisé sur poste, assez vite, Saint-Fron est très très demandé. Voilà, donc on a un nombre de débutants assez important, hein, sur la commune. Ça a un impact parce que ça veut dire que cette problématique de la diversité linguistique, elle est importante pour les enseignants, mais c'en est une parmi d'autres. C'est pas forcément leur priorité, parce que leur priorité, c'est déjà de faire classe, hein, et que presque cette diversité linguistique, ça a quelque chose d'un petit peu relevant d'une explication assez simple des difficultés des élèves. C'est-à-dire, ils ne parlent pas français, donc c'est normal qu'ils soient en difficulté. Et ça devient un constat qui empêche le raisonnement presque sur ce qu'on peut faire sur ces difficultés. Alors, depuis 2011, on a un travail de collaboration avec l'IFE, avec l'ESPE. On a monté plusieurs formations. La première formation qu'on a eu l'occasion de monter, dans laquelle Marie-Odile était intervenue, c'était une formation qui interrogeait en fait des paradoxes, deux paradoxes. La question qu'on avait posée assez crûment, c'est comment se fait-il que des élèves réussissent en éducation prioritaire, puisqu'a priori tous les indicateurs montrent qu'ils devraient échouer, donc il y en a quand même qui réussissent, donc c'est un petit peu le premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est comment se fait-il que certains parents sont prêts à dépenser des fortunes pour que leurs élèves aient une éducation plurilingue, quand on voit le coût de scolarité de certaines écoles privées internationales, et qu'ils fuient cette même diversité linguistique quand on est dans des quartiers. La réponse, elle est évidente pour tout le monde, mais n'empêche, ça veut dire que quelque part, le même profil va avoir un avantage et des désavantages. Donc essayez d'identifier quand même ce qui peut être de commun à ses regards sur la diversité linguistique. Après les formations, excusez-moi, puis après je passerai la main. Après, on a eu l'occasion de faire plusieurs interventions, donc des interventions dans les animations pédagogiques sur la thématique du plurilinguisme que Nathalie a animé, à un public qui était large, les gens s'enseignaient comme ils voulaient. On a eu pas mal d'enseignants intéressés sur les profils des enfants plurilingues, sur des principes d'enseignement à la diversité linguistique. On a proposé également des formations qui s'adressaient davantage à des équipes d'école, formations qu'on a construites avec Jean-Luc autour des activités d'éveil aux langues que l'on peut construire dans des écoles. Et ensuite, on a eu des formations qu'on continue à construire, où on met ensemble les enseignants UPE2A et les élèves des classes ordinaires qui accueillent des élèves pris en charge par les enseignants UPE2A. Puisque, comme le disait Marie-Odile, ce qui se joue actuellement, c'est ce qui se passe dans la classe ordinaire. Et on continue aussi à proposer des échanges de pratiques entre les enseignants UPE2A sur trois circos voisines pour nourrir un peu la réflexion. Voilà l'état un petit peu de la circo actuellement.
Donc il y a Marie-Odile qui va donc maintenant prendre un temps un peu plus long pour nous présenter le questionnaire.
Voilà, donc je vais vous présenter des résultats sans les commenter, sans les analyser. Hein, plutôt des résultats tels qu'ils sont apparus au niveau du questionnaire et quelques remarques, constats qu'on peut faire. Et puis après, les collègues rebondiront sur quelques éléments. Donc savoir que ce questionnaire a été adressé par voie électronique et voie papier, c'est quoi, par voie électronique à tous les enseignants de la circonscription, que c'était un questionnaire qui garantissait l'anonymat absolu, hein, et donc les retours de questionnaire pouvaient être enregistrés directement sur un logiciel qu'on avait à l'IFE, hein, on a l'habitude d'utiliser ce logiciel pour les recherches, et si certains enseignants étaient en difficulté, ils pouvaient imprimer le document et le restituer anonymement dans la boîte aux lettres de la circonscription. Premier constat, on se disait que peut-être plusieurs enseignants ne répondraient pas la version papier. En fait, sur l'ensemble des réponses, il n'y a eu qu'un questionnaire qui a été renvoyé version papier. Donc c'est un indicateur intéressant sur l'usage des ordinateurs. Sur les 134, alors enseignants professionnels, hein, sur les 134 possibilités de personnes qui pouvaient remplir le questionnaire, on a eu 62 répondants. Hein, ce qui est dans l'ordre de ce genre de situation assez satisfaisant pour nous lorsque nous faisons des études et des enquêtes. Jocelyne était un peu déçue, pensait que les collègues auraient davantage répondu. Mais on verra aussi que les réponses sont... c'est pas par hasard. C'est-à-dire que les 62 répondants correspondent davantage aux personnes qui ont plus d'un an ou deux ans d'ancienneté. C'est-à-dire que toute cette ce graphique de Jocelyne là, qui montre cet ensemble-là, eh ben, on ne les retrouve pas ici. Ça veut dire que ce n'est pas dans l'ordre ou dans les priorités qu'ils ont ou dans la compréhension, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas renvoyé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'ont pas retenu leur intention. Donc, on retrouve donc sur les profils de répondants, donc 162 répondus, 81% de femmes, 19% d'hommes. Et puis, vous avez ici la répartition par tranche d'âge des répondants, hein, et où on a quand même le taux le plus fort correspond à la tranche d'âge 30-40 ans, hein, et même 25-40, qui correspond aussi au profil de la circonscription. Hein, dans les répondants, donc on voit des tranches d'âge, mais on voit aussi que ça correspond, mis à part les premiers, comment dire, ceux qui ont peu d'ancienneté, ça correspond aussi au graphique de Jocelyne sur l'ensemble de la circonscription. Voilà, les niveaux d'études, eh ben, on retrouve... ça corrèle le profil tout à fait. Donc ce sont des tranches d'âge qui étaient à une période où on devenait enseignant avec Bac plus 3. Ensuite, on a posé des questions sur les fonctions occupées et les répartitions par domaine d'activité. Les fonctions occupées, il y avait donc une seule réponse possible, et on voit que c'est la majorité d'enseignants qui ont répondu. À savoir que les directeurs sur son fond sont directeurs. Ils ne sont jamais à mi-temps, tiers-temps, à quart-temps.
Sur Saint-Fond, il y a 7 groupes scolaires. Il y en a 6 qui sont complètement déchargés et un où c'est une décharge à mi-temps, puisque ce sont des grosses écoles.
Voilà. Et puis, les domaines d'activité... Pardon. Voilà. Les domaines d'activité, donc maternelle, primaire, donc plusieurs niveaux, la direction, UPE 2A, donc ce sont 3 enseignants qui ont répondu, et donc les trois de la circonscription. Hein. Au niveau des Ulis, il n'y a pas eu de réponse. Razed, trois personnes. Cordo, il y a un Cordo, donc, et puis deux personnes de la circonscription. Sur il y avait une question qui était posée aux enseignants. Avez-vous passé un long séjour à l'étranger? C'est-à-dire que autrement que des vacances, et on a pu répertorier que alors il manque un graphique sur les séjours à l'étranger. Donc il y a eu effectivement plus de 25% des répondants qui ont séjourné de manière sur une année et plus à l'étranger. Ce qui est intéressant de remarquer par rapport à ce qui suivra, c'est de voir ces séjours où ils se situent. Italie, Autriche, Suède, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Écosse, Angleterre, Espagne, Algérie, Bénin, Laos, Australie, c'est une même personne. Hein, c'est pour ça qu'il y a un lien. Suède, Japon, c'est une même personne. Brésil, Argentine et Tahiti. Hein, donc c'est la répartition des séjours à l'étranger. Les profils linguistiques des professionnels, donc sur les 64 répondants, il y en a 61 qui ont répondu. Donc sur les 62 répondants, il y en a 61 qui ont répondu. Ce qui n'apparaît pas ici, qui est intéressant, c'est que lorsqu'on leur posait les questions des langues qu'ils ont apprises ou qu'ils ont acquises, le français n'apparaissait jamais. C'est-à-dire que c'était dans l'implicite. Le français n'est pas une langue. Bon, on peut l'interpréter de différentes manières. On ne l'a pas encore interprété, mais ça a été une surprise pour nous de voir que les langues que vous avez apprises, surtout qu'ils répondaient entre 0 et 6 ans, entre 6 et le français, ce n'est pas une langue qu'on apprend, qu'on acquiert non plus. Donc, deux langues, 54 indiquent qu'ils ont appris, qu'ils ont à leur répertoire deux langues en plus du français, donc trois langues. Alors, ça paraît beaucoup, mais ça correspond à peu près aux langues qu'on apprend à l'école. Hein. Donc, on apprend une première langue, et puis après, on apprend une deuxième langue, et éventuellement une troisième. Donc, quatre langues, ils sont 26, cinq langues, 10, et quatre ont parlé de six langues. Sur les langues qui ont été apprises, on retrouve ici les langues scolaires, hein, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Hein, dans la région lyonnaise, il faut savoir que l'italien est une langue importante, hein, du fait d'une certaine proximité historique et géographique. Ensuite, on a l'arabe, le chinois, le danois, le grec, le japonais, la langue des signes, le latin, hein, le portugais, le russe, le suédois, le swahili et le tahitien. Donc un panel assez intéressant. Après, la question qui était posée, c'était ces langues, quelle modalité d'acquisition ? Formelle, qui est une acquisition de type scolaire ou en école de langue, hein, par un apprentissage. Informel, qui est dans la famille ou lors de séjours longs à l'étranger ou exprise. Et puis, sous les deux formes. Donc, on voit que ce qui prédomine chez les enseignants, c'est des apprentissages formels des langues. Autour de, l'allemand et l'anglais, on retrouve l'espagnol et l'italien aussi. Et peu de langues apprises de manière informelle, hein, et ou formelles et informelles. Voilà. Ensuite, les langues actuellement parlées. Donc, il y a des langues qu'on a apprises et puis qu'on n'utilise plus forcément parce qu'on n'est plus dans des contextes. Donc ce sont les enseignants ont répondu là aux langues qu'ils mobilisaient, alors pas dans leur quotidien, mais disons dans une année de vie à peu près, on peut, ou régulièrement, les langues qui étaient mobilisées. Donc on retrouve l'anglais, l'espagnol, le grec, l'italien, le suédois, une personne l'anglais, l'allemand, quatre personnes l'anglais, l'allemand, l'anglais espagnol, anglais italien, anglais allemand espagnol, anglais espagnol portugais, anglais arabe espagnol, anglais allemand italien. Voilà. Il a une autre question qu'on leur a posée qui est des langues parlées dans leur famille autres que le français. C'est-à-dire que ce n'est pas des langues forcément qu'ils parlent, ce ne sont pas forcément des langues qu'ils comprennent, mais ce sont des langues avec lesquelles ils sont en contact au cœur de leur famille élargie. Hein, pas la famille nucléaire, mais les grands-parents, les cousins, d'une manière élargie. Donc sur les 61 répondants, donc il y en a quand même plus d'un tiers qui dit être en contact avec des langues variées, hein, et on retrouve des précisions sur l'italien napolitain, le patois de la Garenne, le patois, et puis l'alsacien, donc des langues régionales, etc. Ensuite, on leur a posé des questions sur les langues de leurs élèves et sur la manière dont ils appréhendaient les langues des élèves. Donc ce qu'ils disent des langues de leurs élèves, c'était la question « Quelle langue parlent vos élèves ?» Donc là, on a de manière exhaustive les réponses sur les langues des élèves. Donc il y a une quantité importante, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est cité énormément de fois. C'est bon dans le temps là. Donc on voit que l'arabe est cité 37 fois, l'italien 15, le portugais 21, le turc 25. Vous voyez ? Donc si on revient au graphique des enseignants, il y a la carte des enseignants, on se retrouve avec encore une fois une multitude de langues qui sont citées, mais pas les mêmes. Il y a très très peu de superposition entre les langues des élèves et les langues des enseignants. Après, il faut se méfier. Bon, on trouvait important de faire cette carte, mais on met un point de vigilance sur une carte parce que l'arabe est une langue qui fait partie du patrimoine français. Les langues d'immigration font partie du patrimoine français, le turc aussi, le portugais, et ce n'est pas forcément... un enfant qui est né et qui grandit en France, il peut très bien parler arabe, il peut très bien parler turc, et pas forcément être né en, bon, vous le savez bien, né en Turquie, ou né dans un pays du Maghreb ou Portugal ou autre, hein, et pas toujours en fonction des générations, même en lien avec les pays. Donc c'est une représentation qui ne doit pas être associée à les enfants viennent de là. Il hein, faut faire attention à ça.
Et c'est une déclaration d'enseignant. Ce n'est pas forcément l'exactitude de la langue parlée, en fait.
Ce n'est pas non plus l'exhaustivité de peut-être la réalité du terrain non plus. Quand un enseignant accueille en début d'année des élèves de CP, on a pu le constater sur des recherches plus qualitatives qu'il y avait un voile qui tombait quand on posait les questions, quand on mettait des démarches en place type biographie langagière des élèves, où tout d'un coup l'enseignant découvre les langues parlées par ses élèves. Il suppose qu'il y en a certains mais quand on fait réellement le travail, c'est d'autres choses. Alors on a posé aux enseignants la question, ils ont été interrogés sur l'autorisation à parler une autre langue dans la classe, dans la cour de récréation, à la cantine, à la maison. Donc dans la classe, on a 41% de ces enseignants, donc vous avez au-dessus le nombre de répondants sur les 64 qui disent oui à 41%, non à 46% et 13, ça dépend desquels. Alors ça dépend de quelle langue, hein. Dans la cour de récréation, donc il y a une augmentation sur oui. Comment ? Oui, ça interroge. Oui. On va réinterroger tout ça. Oui, dans la cour de récréation, non à 64%, non à 31%, et encore 5%, ça dépend desquels. À la cantine, 44%, 54 répondants, hein, 44% oui, 50% non, 6% ça dépend desquels. Et à la maison, oui à 95%, 3% ça dépend desquels, 3% ça veut dire deux personnes, hein, et une personne qui a répondu non. Non, c'est ça dépend desquels. Il y avait les choix, oui, non, ça dépend desquels. Oui, c'était un... Oui. Non, c'était pas une question ouverte, c'était une question fermée. Non, ça dépend desquelles langues. On était sur le profil linguistique des élèves. Il faudrait que je retrouve exactement la question qu'on a formulée. Alors, ensuite, sur l'empan professionnel... Là, ce n'est pas le regard sur les langues de leurs élèves, c'est sur leur empan professionnel, sur la prise en compte de la spécificité des élèves qui ont plusieurs langues à leur actif. Alors, prenez-vous en compte la spécificité de ces élèves. Donc, oui, 35% ont répondu oui, non 26%, pas systématiquement 37%, et 2% non. Non. Mais tout à l'heure, il y avait dans la classe, hein, autorisez-vous. Voilà. Et on leur a posé la question de savoir au niveau individuel si c'était un apport dans leur enseignement, la diversité linguistique de leurs élèves en classe et au niveau de l'équipe pédagogique. Donc, si c'était un apport à un niveau plus individuel, hein, la présence d'une autre, plusieurs autres langues que le français dans la classe a apporté quelque chose à votre enseignement, il y a eu 59 répondants, oui 43%, non 20%, je ne sais pas 37%. Pour les 22 répondants qui ont répondu oui, c'était un apport pour la classe, donc là c'était une question ouverte. La première question, c'était le camembert, c'était question fermée. Hein, et là, après, pouvez-vous préciser sur le oui et sur le non? Donc les oui ont précisé apport pour la classe 14, pour construire des remédiations individuelles 7 et les deux. Apport pour la classe, remédiation individuelle. Ensuite, une autre question au niveau de l'équipe pédagogique. Est-ce que ça a apporté quelque chose au travail au niveau de l'équipe? Donc oui, 20%, non, 19% et 61%, je ne sais pas. Et les 10 répondants qui ont dit oui, alors il y a différents items dans les réponses. Invitation aux parents, chansons, musique, travail sur le plurilinguisme et l'interculturalité, ouverture sur le monde. Réflexion sur l'intégration des élèves allophones, appréhender le français en tant que français langue étrangère, projet d'école centré sur la langue, réflexion sur le langage, l'oral écrit. La problématique de la diversité des langues dans l'école ont amené ce type de questions au sein des équipes pour 10 répondants. Est-ce que la présence de plusieurs langues dans la classe pose problème? Alors oui, 12%, ça dépend 40% et non 48%. Et oui, il y a eu 7 répondants qui ont dit les enfants qui se regroupent, est-ce que ça vous pose problème? Oui, alors pouvez-vous préciser? Ça pose problème quand des enfants qui se regroupent et parlent entre eux une autre langue que le français. Ça pose problème lors de la communication avec les parents. Ça pose problème lorsqu'il y a de nombreux importants d'enfants qui ne maîtrisent pas le français, et ça pose problème de parler une autre langue à la maison, mais les élèves en difficulté en français. Non, ça ne pose pas problème. Normal, ce sont des élèves allophones, donc c'est le métier, le cœur du métier d'enseignant UPE d'ESA. Tout le monde parle et comprend le français, donc ça ne pose pas de problème. La diversité partout, c'est une chance et une richesse. Et en classe, on ne parle pas d'autres langues que le français, donc ça ne pose pas de problème que les élèves aient d'autres langues. et pas de précision sur ça dépend. Voilà, et le dernier ensemble de questions qu'on a posées, c'est à propos de la formation, s'ils ont abordé ces questions des langues apportées par les élèves en formation initiale ou continue. 31% dit oui, 69% dit non. Et s'ils ont abordé en formation initiale ou continue les questions du biplurilinguisme de certains élèves, 44% oui et 56% non. Voilà les résultats qu'on est à communiquer. Donc l'idée, c'était maintenant, dans la première réunion de travail qu'on a effectuée autour de ces résultats, on a rebondi sur quelques éléments déjà.
Alors, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. J'aurais bien voulu être là dès le départ de votre formation, mais bon, les contraintes universitaires sont fortes en ce moment, donc je vous ai rejoint en milieu de journée aujourd'hui. Du coup, j'ai été extrêmement attentive à vos retours des ateliers. Oui, j'ai écouté très attentivement, j'ai entendu votre grand souci de repérer les besoins des enseignants. Ça, c'est très important. Et puis, j'ai entendu aussi toute la gamme de démarches que vous souhaitez mettre en œuvre dans vos formations. J'ai entendu l'insistance un petit peu sur les outils. J'ai entendu des choses comme ça. Moi, je voudrais vous dire peut-être d'entrée de jeu deux petites choses, juste une réaction comme ça. Concernant ces besoins, oui, évidemment que c'est indispensable de repérer les besoins, sinon, vous allez perdre du temps et de l'énergie. Mais il y a aussi une petite chose qui est que parfois, les enseignants peuvent avoir besoin de choses qu'ils ne sont pas forcément capables de verbaliser. C'est ça que je voulais vous dire. Dans ce que j'ai entendu sur ces questions linguistiques, dans tous les retours, là, il n'y avait pas énormément de choses qui étaient centrées uniquement sur cette question de plurilinguisme. Si je fais un peu le lien avec le film, le petit film sur le Val d'Ost, où elle met beaucoup d'accent sur ces questions de plurilinguisme, j'ai trouvé ça intéressant pour vous. Et puis, le lien avec cette enquête. Mais bon, je vais vous en dire un mot de plus dans un instant, mais concernant, juste pour faire le lien maintenant avec les résultats qu'on a eus sous les yeux, ces résultats confirment justement d'une part que chacun de ces participants à l'enquête dispose d'un répertoire plurilingue. On a bien vu ça, hein? Les graphiques montrent une concentration des langues offertes comme langues vivantes acquises en milieu scolaire, mais aussi, dans une moindre mesure, pour certaines personnes, d'autres langues intimes ou apprises, comme, et on a vu toute la gamme là, l'arabe, le chinois, le danois, le grec, le japonais, la langue des signes, et tant mieux que la langue des signes soit citée explicitement, le latin, le russe, le portugais, le suédois, le swahili, le tahitien. Quelle panoplie colorée! La diversité est bel et bien là. Belle, oui. Et bien, évidemment. Moi, je voudrais souligner qu'il s'agit surtout d'un potentiel précieux, mais malheureusement insu. Pour faire un petit raccourci abusif, je dirais que les enseignants ne sont souvent pas conscients de leur propre pluralité, ou plutôt, cette pluralité qui relève de leur vie personnelle n'est pas forcément considérée par eux comme une ressource éducative directement exploitable dans leur classe. Il se peut même que consciemment ou inconsciemment, un enseignant fait taire dans l'exercice de son métier ses langues autres que le français et les langues vivantes des programmes. Ceci, bien évidemment, dans le respect éthique d'exercice de son métier qui impose le français comme langue unique de scolarisation, langue véhiculaire des savoirs et langue commune. Alors, y a-t-il une place pour ces langues autres que le français dans l'institution scolaire? Moi, je souhaite défendre l'argument selon lequel alors moi j'ai fait un super sigle là en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, ce potentiel plurilingue personnel, alors c'est le PPP, hein? Le PPP pour vous donner du PEPS, le potentiel plurilingue personnel peut être mobilisé par les acteurs éducatifs de différents statuts et fonctions comme une ressource en or pour l'enseignement et l'apprentissage. Et vous entendez bien là que je parle d'enseignement-apprentissage et je ne parle pas spécialement des élèves allophones qui sont bien évidemment au cœur de vos préoccupations, mais j'insiste aussi beaucoup sur l'importance pour tous. Ça, j'ai bien entendu dans vos présentations et ça m'a vraiment fait plaisir, cette idée que ça concerne tous les enfants, les allophones certes, mais tous les enfants. Voilà. Alors pour moi, il y a peut-être deux ingrédients indispensables pour former à et par la pluralité. Les résultats de l'enquête montrent que presque 70% des répondants disent que la question de la pluralité linguistique et culturelle des élèves n'a pas été abordée en formation initiale et continue. Donc là, vous avez de la chance. Par contre, 44%, tout de même moins que la moitié, disent que le biplurilinguisme a été abordé. Bon, ça c'est un petit élément. Donc, les deux dimensions pour une formation à et par la pluralité. Première dimension, des activités de conscientisation à dimension réflexive. Et j'ai bien entendu dans certaines présentations ce souci de faire réfléchir les enseignants. Donc, ces types d'activités, pour vous donner quelques exemples, ça peut être des activités biographiques. J'ai appris qu'il y avait des présentations intéressantes hier quelques réflexions sur les biographies langagières des participants ici. Ces activités sont extrêmement puissantes et bien adaptées à ce type d'exercice pour prendre conscience des langues de son répertoire. C'est vraiment cet aspect conscientisation. Et cette conscientisation peut aussi être travaillée à travers des activités d'éveil aux langues, voilà, pour travailler avec et réfléchir sur la diversité linguistique et culturelle. En fait, on a vu que toutes ces personnes ont cette pluralité dans leur répertoire, mais ça ne suffit pas de l'avoir pour pouvoir l'activer. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'insiste sur ces dimensions-là. Ça peut être aussi des activités liées à d'autres approches plurielles. Donc, vous avez entendu dans la présentation sur le Val d'Ost, elle parlait de ces approches plurielles et elle pense à d'autres choses. Il y a l'éveil aux langues, bien évidemment, mais aussi l'intercompréhension entre langues romanes, par exemple, les approches interculturelles ou encore des approches CLIL et EMIL, l'enseignement d'une matière intégrée à la langue. Voilà. Pourvu qu'il y ait une place dévolue à la réflexivité. C'est vraiment une chose essentielle. Deuxième dimension pour moi importante au niveau de la formation, c'est découvrir et mobiliser sa propre pluralité comme une ressource didactique et pédagogique. Ça, c'est pas évident d'en arriver là, hein? Mais je pense que c'est peut-être une finalité, un objectif à atteindre. Oser mobiliser sa pluralité linguistique et culturelle pour la gestion des relations des élèves, collègues, parents, pour la conception d'activités didactiques et pédagogiques, pour la gestion de la classe, ça ne va pas du tout de soi. Je pense d'ailleurs que Jean-Luc Vidalinck va nous dire quelques mots tout à l'heure sur la question de oser. Oui, il faut que j'arrête. C'est vrai. Donc, en bref, je suggère qu'une telle prise en compte de la pluralité fasse partie intégrante du profil professionnel de l'enseignant. Oui, si je dois arrêter, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est cette question que il ne s'agit ni d'outils spécifiques, ni d'activités spécifiques. Il s'agit vraiment de faire en sorte que l'enseignant développe un profil professionnel interculturel. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que c'est un atout. Il va ensuite avoir cette capacité, ce qu'on appelle en anglais « empowerment » à travers l'intégration et le travail. On a vu avec un travail qu'on a fait avec Mario Dill dans une école, dans un collège, que quand les collègues ont mobilisé leur propre langue de leur répertoire, ça leur avait donné vraiment un sentiment de fierté, de puissance, d'engagement dans le travail avec les élèves, et ils ont été inspirés pour produire eux-mêmes des activités, adapter des choses selon les programmes. Et c'est ça que je voudrais mettre dans la balance, c'est vraiment cette dimension d'ouverture, plutôt que donner plus d'outils. On trouve des milliers d'outils partout, on trouve des milliers de logiciels, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est vraiment cette question de développer cette capacité à faire. Voilà, alors je voudrais pas trop... Je vous lis une citation. C'était cet enseignant, c'était un enseignant d'anglais, vous vous rendez compte? Lui, il a mobilisé sa langue créole dans une classe d'anglais pour faire produire du bon anglais par ses élèves. Et voilà ce qu'il nous avait dit à la fin. Il y a eu à la fois un intérêt tout à fait personnel pour ce qui me concerne, et puis un intérêt pédagogique, et puis quasiment administratif. Je répondais au garde-à-vous, à tout ce qu'on me demandait au niveau de l'inspection académique. J'y mettais ma patte, quelque chose de plus personnel. Il était vraiment totalement engagé, une fois qu'il avait réussi à mobiliser sa langue créole pour aider ses élèves à mieux travailler en anglais. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, mais c'est pour vous montrer cette dimension d'être un enseignant du plurilinguisme, quoi. Voilà. Et je ne mentionne pas, parce que j'ai pas le temps, tous les aspects les enjeux de le lien social, le développement de relations interpersonnelles. C'est là que c'est important. Entre élèves et enseignants, entre élèves, entre parents et tous les acteurs du système éducatif. Voilà, je m'en tiens là, c'est bien évidemment la notion de l'inclusivité, et si j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, c'est la dimension qui a été très approfondie ces deux derniers jours. Voilà.
Pardon pour le petit dépassement.
Moi, je vais revenir sur des situations beaucoup plus concrètes et m'intéresser à la façon dont les enseignants traitent de la diversité linguistique dans leur classe. Parce qu'on a vu sur l'enquête, on est souvent sur une logique de remédiation ou de compensation. Et on voit quand même des activités qui ont été conduites dans les classes pour exploiter le mieux possible cette diversité. Ce que disait Diana, c'est intéressant, la diversité, si on n'en fait rien, ça reste rien. C'est comme le bain linguistique, les enfants ne sont pas des éponges, quand on les trempe dedans, ils ressortent mouillés, c'est tout. Mais ils ne sont pas forcément plus équipés sur le plan linguistique. Donc, des classes sont développées à la suite des formations. Ça, c'était à la suite d'une formation qu'on avait construite avec Jean-Luc. Un projet qu'on a trouvé vraiment intéressant, ça a été de s'intéresser aux langues du quartier. Donc, ils sont partis dans le quartier de Saint-Fons, équipés d'appareils photo. C'était des classes de CP de CE1. Et ils ont photographié. Donc, c'est tout à fait ce qu'on fait quand on fait habituellement les fonctions de l'écrit, hein, les fonctions sociales de l'écrit. Donc, ils se sont simplement intéressés aux langues qu'ils pouvaient rencontrer dans le quartier. Donc, sur Saint-Fond, on a du matériau intéressant. Le lieu le plus intéressant pour faire ce genre d'activité, c'est le marché. Parce qu'on a un marché très coloré et un marché où il y a beaucoup de produits d'importation. Donc quand on regarde sur les cartons, on voit plein d'écrits. Donc voilà, les élèves se sont simplement posé la question de qu'est-ce qu'ils voyaient, de quel alphabet il s'agissait, de quelle langue il s'agissait et où est-ce qu'ils l'avaient trouvé. Tout ça, ça a été ensuite exposé et présenté aux familles. Et on a vraiment vu les familles s'intéresser à ce travail et y apporter un plus. c'est-à-dire rectifier certaines choses, répondre à des questions. Les commerçants aussi ont été très très ouverts aux questions des élèves. Donc ça, c'était vraiment une activité qui permet déjà dans un premier temps de mettre à distance la langue, puisqu'on sait qu'une des difficultés que les élèves rencontrent, qu'ils soient allophones ou pas, c'est cette mise à distance de la langue pour pouvoir la considérer comme un objet de travail. Donc ce travail à partir des langues du quartier a été vraiment utile. Donc tu peux faire défiler quelques photos. Ensuite, il y a eu un autre travail qui a été conduit en CE1. Bon, c'est aussi le profil des enseignants qui font qu'ils vont aller sur des activités un peu dangereuses quand on emmène une classe entière dans le marché, sur le marché avec un appareil photo. D'autres vont plutôt avoir quelque chose de plus scolaire, entre guillemets. Ils se sont simplement posé la question de ce que c'était qu'une langue, donc des recherches. Et voilà, et la question a été posée, un affichage des questions. Donc, une langue, ça s'apprend, par exemple. Et ce que disait Marie-Odile sur le fait que le français n'est pas considéré finalement comme une langue apprise. Il y a ensuite des travaux qui ont été conduits dans les classes autour de la biographie langagière des élèves. Donc c'est la diapo suivante, je pense. Voilà. Sur les élèves, les langues parlées, les langues comprises, les langues. Alors il y a eu des adaptations. Hein, la langue comprise, la langue parlée, la langue lue, la langue écrite et la langue qu'on aimerait apprendre. En fait, et donc c'est vraiment autoriser les langues des familles à rentrer dans l'école. Et je vais laisser la parole à Jean-Luc pour qu'il nous parle de l'autorisation.
Alors effectivement, j'ai essayé de poser quelques éléments sur les questions d'autorisation qui sont bien souvent au cœur des changements de pratique justement en fait. Hein, et je vais parler des élèves, des parents et des enseignants. Juste un mot sur le côté justement, une des valeurs des langues, hein, c'est cette valeur identitaire. La langue est un très puissant marqueur identitaire. Alors identitaire, pas au sens des identitaires nationalistes bien sûr, mais identitaire au sens psychique de la construction et de l'équilibre psychique. Hein. Donc c'est quelque chose dont on a besoin, mais ce dont on a besoin aussi, c'est d'aider les élèves, mais aussi nous-mêmes, puisque effectivement quand on n'a pas conscience, par exemple, qu'on a appris le français, on est fusionné dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'identité, puisque c'est pas conscient. Mais bref, pour dire que cette valeur identitaire, qui est une des valeurs parmi d'autres de la langue, ne suffit pas à se construire, et qu'à l'école, on peut apporter d'autres valeurs à la langue, d'autres valeurs aussi que leur valeur marchande. Hein, marchande et identitaire, ce sont les deux valeurs qui sont un peu premières et qui embarrassent finalement le paysage autour des représentations de langue. Alors j'ai choisi quelques vignettes, qui sont des vignettes que j'ai recueillies en fait au fil de mon travail d'enseignant, directeur d'école, et puis enseignant de réseau d'aide, et puis maintenant animateur, formateur depuis 2 ans, qui, j'espère, vous montreront un peu où se nichent finalement ces besoins parfois d'autorisation et ces interdictions qui restent un peu latentes. Donc par exemple, cette enseignante de CE1 qui accueille un élève portugais non francophone depuis un mois, que je rencontre au cours d'une animation pédagogique, et qui témoigne, puisqu'on fait beaucoup d'échanges aussi autour de l'accueil des élèves allophones, comme vous l'avez souligné, c'est quelque chose d'assez important. Et elle dit, moi je parle portugais, mais en fait je ne lui parle pas portugais, parce que je pense que je n'ai pas le droit en classe, en fait, quand même. Donc, quelles que soient les circonstances, récréation, enseignement, besoin pressant ou autre, pour elle c'était impossible, elle ne pensait pas pouvoir le faire, en fait. Hein. Donc là, c'était plutôt les fonctions du langage que je voulais écrire plutôt que communication, mais en tout cas pour dire que bon, voilà, à quoi ça sert une langue en fait, hein, si c'est pour ne pas pouvoir communiquer quand on pourrait. Donc, et cette personne n'était pas du tout mal intentionnée, c'était pas du tout une posture idéologique, c'était vraiment un problème de posture professionnelle. Et à la sortie de cette petite réunion d'une heure et demie, 2 heures, elle était tout à fait capable et finalement assez soulagée de savoir qu'elle pouvait le faire, et que c'était peut-être même plutôt une bonne idée, et qu'elle pouvait même aller plus loin en termes de ressources et d'aide pour cet élève qui n'était pas du tout francophone. Une autre petite photo dans le cadre donc d'un projet d'éveil aux langues, donc dans le cadre des approches plurielles, des parents venaient lire, là c'était de la lecture, donc sur des livres d'albums de classe. C'était « C'est moi le plus fort » de Ramos, qui était lu dans différentes langues, notamment l'arabe. Et le jour où une maman est venue le lire en arabe, une petite fille qui s'est écriée vraiment très spontanément « Parle pas arabe, ça va te brûler la langue ». Donc là, on fait remonter tout de suite un interdit très, très fort aussi qui a été prononcé à la maison. Hein, il n'y avait pas ce genre d'interdit à l'école. Et cette petite fille, finalement, on peut imaginer dans quelle insécurité elle pouvait venir à l'école, étant elle-même arabophone et finalement ayant cette peur hein, de, qui avait été... créée finalement à la maison pour des raisons voilà, on va pas s'étendre sur les raisons pour lesquelles elle avait entendu ça, mais en tout cas on voit qu'il y avait cet interdit qui est parfois juste un plutôt autour du secret, mais en tout cas qui favorise pas tellement la prise de parole et la liberté de parole hein, parce qu'on sait que la langue, interdire une langue c'est quasiment interdire la parole, parce que comment dans la communication et la spontanéité, c'est quand même très difficile de contrôler la langue qui pourrait surgir. Donc autour du mutisme sélectif notamment, on a beaucoup d'éléments cliniques qui montrent que quand il y a des questions de plurilinguisme autour, c'est souvent par là qu'on peut démêler les problématiques. Une autre petite vignette avec une famille tchétchène et une maman, donc pendant un entretien avec la petite fille et puis la maman en dehors du temps scolaire, une maman qui découvre qu'effectivement l'école n'attend pas en fait hein, et ça c'est quelque chose qu'on a pu lui transmettre avec l'enseignante, que l'école n'attend pas qu'elle parle français à sa fille, surtout qu'effectivement elle est arrivée très récemment et que c'était évidemment pas un modèle de langue intéressant. Et cette maman était vraiment dans cette idée là et elle se forçait en fait à essayer de parler français en pensant que c'était ça la condition de réussite de sa petite fille, et elle ne s'autorisait pas du tout évidemment à ou peu, parce qu'en fait elle le s'autorisait certainement, mais en tout cas avec une certaine culpabilité à continuer à parler tchétchène. Et donc là évidemment qu'on a besoin des parents pour qu'ils nous aident à aider leurs enfants et nos élèves à se construire dans le langage et pas dans la langue française. Pour les allophones, on n'attend pas les parents allophones sur la langue française évidemment, en tout cas pas avant plusieurs années, et par contre on les attend sur les compétences langagières qui sont découplées des compétences linguistiques, et ça les enseignants et les parents ont besoin de se mettre au clair autour de cette différence là. Et voilà, il y a des lieux, il y a des endroits, des dispositifs qui permettent de parler ces questions là et de lever des interdits qui sont même pas prononcés finalement, mais qui sont un peu implicites ou qui sont parfois quand même portés par l'institution scolaire, on le verra un peu plus tard. Une autre vignette dans une classe où un élève italophone, arrivé depuis quelque temps, aide un élève allophone, italophone aussi, arrivé très récemment, en utilisant la langue italienne, et là c'est organisé par l'enseignant, c'est un îlot en fait, dans une classe où il y a beaucoup d'enfants de différentes langues, et ils savent qui peuvent aider celui qui arrive dans la langue qu'ils connaissent bien. Alors c'est pas la même école évidemment, mais en récréation on sait que parfois il est interdit ou il est permis d'utiliser une autre langue. Au coin d'Inet aussi, hein, la question de la langue avec les tout-petits, le surgissement de la langue étrangère parfois est plus spontané, il n'y a pas encore eu d'expérience négative autour de ça. Et la façon dont la maîtresse peut accueillir cette manifestation d'une autre langue est très importante. Même si ça peut être effectivement interdit dans une classe, mais c'est comment, encore que ce soit discutable, mais même si ça pourrait être interdit, dirons-nous, comment c'est interdit, comment c'est expliqué, comment c'est cadré finalement, et comment ça peut être autorisé à condition que, et ainsi de suite. Ça c'est des éléments importants. Toujours dans le sein de la classe, en lycée professionnel, en atelier de plomberie, c'est formellement interdit d'utiliser une autre langue que la langue de scolarisation, mais dans le même établissement, en enseignement général, un élève turc, lui, qui arrive récemment, est autorisé à répondre en turc, en fait, à un questionnaire, je crois. Enfin, là, j'étais pas dans la classe, mais on me l'a témoigné. Et parce qu'il y avait un autre élève turc de la classe qui allait aider l'enseignant à traduire derrière, donc ça permettait effectivement à cet élève turc de travailler, de réfléchir, de produire des idées, de les poser, de les mettre noir sur blanc, et puis progressivement évidemment de passer à la langue française. Au moment de l'inscription, une autre petite vignette avec une directrice de maternelle qui demande aux parents comment sont organisées les langues à la maison, et c'est une directrice qui un an avant ne le faisait pas du tout et se sentait gêné en fait hein, de le faire, et qui justement à travers un travail un petit peu régulier a compris comment elle pouvait se positionner par rapport à ça et se sentir légitime pour le faire, et finalement le faire de façon tout à fait naturelle, mais après un certain temps, après un certain travail en fait sur elle aussi pour comprendre de quoi il s'agissait et pourquoi c'était important. Bah, par exemple dans cette école là une petite fille était rentrée non francophone à l'école à 2 ans et demi, mais née en France, avec une maman francophone. Et en fait, personne ne l'a su, puisqu'au moment de l'inscription, il n'en a pas été question. Et cette petite fille, finalement, pendant tous ses premiers mois d'école, et même une ou deux années, n'a jamais été considérée comme ayant été allophone, arrivant en fait finalement à l'école. Ce qui a posé beaucoup de soucis, parce que son incompréhension de toutes les consignes, et sa façon de regarder les autres sans arrêt pour faire, interrogeait plutôt du côté cognitif l'équipe enseignante. Et cette situation d'allophonie qui était complètement masquée par... voilà, à la fois une directrice qui, à l'époque, ne posait pas ces questions, et une maman qui ne l'avait pas dit, ou peut-être qu'il l'avait caché, on n'a jamais pu savoir, mais en tout cas, on ne le savait pas. C'est une information qui manquait cruellement, puisque tout le monde était sur la piste d'un trouble cognitif, et voilà, c'est des genres de malentendus qui sont importants à lever. Et puis une petite vignette anecdotique, mais pas tant que ça. Dans les années 50, dans le Cantal, il y avait un enseignant qui était bilingue français occitan, et qui aidait ses élèves à écrire « e » en fait, la cheminée, parce qu'en patois on entend la terminaison du mot « cheminée », et qui les punissait en même temps quand ils parlaient patois dans la cour de récréation. Et ça, j'aime bien cette petite vignette, parce qu'elle elle montre parfois comment, entre le discours et les actes, on n'est pas toujours cohérent, même si on est toujours bien intentionné, puisque le statut du français à l'époque était important pour tout le monde, et la façon dont c'est passé, c'était pas toujours mal intentionné. Il y avait des gens qui étaient très mal intentionnés, qui fonctionnaient finalement dans un système assez violent. Mais nous, on n'en est pas loin parfois, en ayant par exemple un discours plutôt qui a beaucoup évolué, qui est plutôt positif, hein, à la diversité des langues, mais en gardant une école finalement qui est relativement fermée aux langues. Parce que les activités d'éveil aux langues, les approches plurielles sont quand même statistiquement encore rares, très localisées, et que du coup le discours implicite de l'école, c'est quand même que les langues des familles, et notamment les langues de migration, ne sont pas intéressantes, on ne s'y intéresse pas, elles ne sont pas utiles, on ne s'en sert pas, et puis elles ne sont pas valables, puisqu'on n'encourage pas les locuteurs à s'en servir. Donc pour conclure rapidement, et là aussi pour les élèves, pour les enseignants et pour les parents, l'objectif et la question autour de cette autorisation, c'est vraiment être libre, hein, de mobiliser ses ressources linguistiques pour mobiliser toutes ses connaissances. On sait aussi que nos connaissances sémantiques, elles sont ancrées dans une langue. Hein. Il y a des choses qu'on sait en français qu'on ne va pas penser à dire dans une autre langue ou dans un autre contexte. Et c'est vrai aussi dans les familles. Hein. La question de la liberté de parole, hein, quand il y a une langue qui n'est pas autorisée de façon explicite ou implicite, ça peut peser sur la liberté de parole, et on sait que les élèves ont besoin de cette liberté de parole pour dire leurs difficultés, pour demander de l'aide, pour oser, pour se lancer. Et là on est vraiment au cœur des questions des petits parleurs. Derrière un petit parleur, il faut toujours envisager, hein, c'est pas systématique évidemment, mais il faut toujours envisager une question de plurilinguisme mal installée, je dirais. Se construire plurilingue, et là c'est vrai pour tout le monde, hein, avec des langues en lien et non en concurrence, hein, le modèle actuel c'est quand même beaucoup sur la concurrence des langues, voire le conflit, voire les théories de conflit de civilisation. Et puis, emprunter à Rochex, qui a travaillé pas spécialement avec les allophones, peut-être même pas du tout d'ailleurs, mais en tout cas avec des personnes qui sont écartées du système scolaire, culturellement, et puis socio-professionnellement, et au niveau des normes de langue. C'est cette question de pouvoir ressembler effectivement à ses parents, donc par exemple parler la même langue que ses parents, mais être différent, donc aussi apprendre une autre langue de façon intensive et massive, donc appartenir à plusieurs communautés linguistiques. Et ça, on sait que ça passe par la reconnaissance, hein, c'est la troisième condition de Rochex, ça passe par la reconnaissance de la légitimité de ce que les parents savent, et puis aussi du coup ce que les enseignants savent quand ils ont des ressources plurilingues. Et puis c'est aider du coup tout le monde à assumer des identités multiples, complémentaires et non exclusives. Et là, on est vraiment, je crois, dans le projet de l'école républicaine, hein, c'est l'émancipation de l'individu. Et cette émancipation, elle passe par ces autorisations qu'on doit se donner à soi-même, par des processus de conscientisation, comme disait Diana, qu'on doit donner aux élèves, ou aider à donner aux élèves, et puis aux familles, parce que les familles ont beaucoup intériorisé ces interdits autour des pratiques de langue. Donc voilà en quelques mots un petit peu des éléments sur l'autorisation et la permission.
Merci beaucoup. Et on va conclure très rapidement pour avoir le temps pour une ou deux questions. Donc juste pour vous dire qu'on va continuer ce travail et qu'on envisage de faire passer des entretiens. Donc comme Marie-Odile l'a dit, le questionnaire était complètement anonyme, mais il y avait une petite question pour dire que ceux qui étaient d'accord pour avoir des entretiens avec nous, vous pouvez nous envoyer leur mail. Donc on a eu quelques réponses de ce côté-là. Donc procéder à des entretiens et aussi une forme de restitution sous forme de formation à la fois dans la circonscription concernée et peut-être de façon plus élargie. Voilà, on va peut-être vous passer la parole si vous avez une ou deux questions avant de clore la journée.
C'était juste pour dire que je trouvais amusant que dans les langues parlées par les enseignants, ils évoquent tous les langues étrangères, et que dans les langues auxquelles ils étaient confrontés, on voit apparaître des langues régionales, et je suppose qu'il y en a quand même quelques-uns qui doivent en parler, enfin s'ils sont en contact avec, et qu'elles n'apparaissent pas du tout. Donc nous, enfin les langues régionales, on a tendance un peu à les masquer aussi, à les oublier, à les dévaloriser, parce qu'elles ont un statut qui est encore un petit peu bâtard, enfin... Et si nous, on n'arrive pas à les accepter, comment on va accepter les langues des élèves qui sont parlées à la maison ?